sol majeur.
Un sol majeur.
Son truc, c'est moins le tricot que la question des droits de l'homme et de la démocratie telle qu'elle est gérée aujourd'hui au Cameroun. Rezoom tout à l'heure sur son documentaire « Une affaire de nègre ». Oswald Lewat, couverte de prix pour ses docs, est une nomade en sol majeur, née à Yaoundé, vivant un jour à Paris, le lendemain à Moroni, où son diplomate de mari est ambassadeur de France. Il fallait pas que je le dise, je le sens. Alors pendant que monsieur représente la France là-bas, vous n'êtes pas du genre à représenter monsieur, Oswald? Vous représentez quoi là-bas, aux Comores?
J'ai pas de fonction officielle aux Comores, donc j'accompagne mon mari quand j'y suis. je suis moins souvent qu'il ne le souhaiterait. Je pense que je suis moi-même. Hein, je suis moi-même en toutes circonstances. Enfin, j'essaye de l'être. Hein, et c'est important que j'ai cette fenêtre qui est une partie importante de ma vie aussi, qui est mon travail. Hein, et quand je suis aux Comores, je travaille et je fais aussi de la représentation un tout petit peu. Mais
et vous aimez pas ça?
C'est pas que j'aime pas ça, mais on va dire que ce n'est pas l'essentiel de ma vie, heureusement. Je pense qu'il y a autre chose.
C'est clair. Vous avez peut-être en tout cas un mélange pimenté, Oswald. Mmh. Vous m'avez dit aimer en vrac l'impressionnisme, le peintre américain Mark Rothko, le Sangha. Alors je ne présente pas ce plat camerounais.
Le Sangha, oui.
Sangha, pardon.
Avec l'accent, hein, le Sangha, oui.
Merci de me reprendre. Et puis vous m'avez dit aimer le vide. Moins il y en a, plus ça me plaît. Vous pensez à quoi en particulier?
Je crois qu'aujourd'hui, avec l'accumulation de tout, que ce soit en termes d'images, de médias, le vide est un vrai luxe. Hein. Et que ce soit, enfin, je parle d'un luxe spatio-temporel, mais même dans la tête, hein, pouvoir faire le point avec soi-même, pouvoir faire le vide. Hein. Est quelque chose qu'on n'a pas toujours l'occasion de faire parce qu'on n'a pas le temps, parce qu'on court tout le temps, et c'est quelque chose que j'apprécie. Vous parliez d'image tout à l'heure. Alors c'est une image qui n'est pas celle du vide, mais qui est celle c'est une image qui m'apaise à chaque fois que je la vois quand je suis à Moroni. C'est celle des pêcheurs comoriens qui au coucher du soleil se réunissent dans leur pirogue pour attraper des petits poissons. C'est une image qui est très forte pour moi parce que ces pêcheurs, il faut qu'ils puissent créer une ombre pour que ces poissons viennent dans leur filet. Et ils savent bien que s'ils ne sont pas ensemble, s'ils sont séparés, ils ne pourront pas atteindre leur objectif. Et je trouve que c'est une métaphore de la vie qui est importante. Et c'est une métaphore de solidarité. Et c'est une valeur que j'essaye de faire partager autour de moi.
Oswald, c'est l'heure d'écouter Elvis. Attention, c'est l'Elvis camerounais. Elvis Kemayo et sa chanson Mama. Il a la banane ou pas?
Non. Alors, Elvis Kemayo, c'est un ami de ma mère. C'est quelqu'un que j'ai connu quand j'étais gamine. Et il a une chanson qui est connue par tous les Camerounais, je pense, Mama, qui raconte une histoire d'exil d'un immigré qui ne peut pas rentrer au pays alors que sa mère, qui est malade, l'attend. C'est quelque chose que je pense qui nous parle tous lorsqu'on vit à l'étranger.
Elvis Kemayo dans le programme en sol majeur d'Oswald Lewat sur RFI.
Mama, papa.
bayam joutagnon. Bama, une mamo, avion tagnon, coque une amo, obi bamo.
Elvis Kemayo sur RFI dans le programme en sol majeur d'Oswald Lewatt qui a non seulement du Cameroun et de la France dans son coffre à jouets mais aussi du nomadisme via le Canada et les Comores. Alors encore une question en sol majeur.
Quelle est la personnalité française que vous aimez le plus ?
Alors, la personnalité française que j'aime le plus, comme ça, sans réfléchir, je dirais Simone Veil. Bon, je sais que c'est une réponse qui peut paraître un peu consensuelle, mais...
Carrément, oui.
Mais, non, mais c'est quelqu'un dont le parcours, je pense, est riche d'enseignements. C'est quelqu'un qui n'a pas eu un parcours facile et c'est quelqu'un qui s'est construit malgré, en dépit de cela. Et je pense que c'est un parcours... qui est un paradigme, qui est un modèle. C'est un parcours à imiter. Et pour moi, c'est vraiment la personnalité française qui me touche le plus et dont le parcours m'inspire le plus. Maintenant, il y en a d'autres hein, qui m'ont nourri, qui nourrissent ma réflexion, qui nourrissent mes engagements de cinéaste. Et parfois, ils sont moins consensuels. Ah. Il y a beaucoup plus d'aspérité.
Chouette.
Mais, mais je vais garder ça pour moi.
Oh.
Mais,
je vais vous servir du madame de l'ambassadeur, madame l'ambassadrice à ce moment-là, si vous me cherchez.
Ah non, mais ça c'est de la provoque, c'est de la provoque.
C'est vous qui nous provoquez.
Non, je crois que, enfin, je suis pas quelqu'un de lisse, donc j'aime bien les gens qui n'hésitent pas à être des poils à gratter dans la société. Il y en a quelques-uns. Je vais pas tous les citer ici. Non, mais je vais pas faire un top 10 des personnalités françaises.
On se contentera d'un nom. Ils sont aussi provoques que ça ? C'est non auquel vous pensez ? Vous attisez notre curiosité.
Je demande un joker.
Prendre racine, ça signifie quoi pour vous ? Autrement dit, est-ce que le travail documentaire que vous faites aujourd'hui sur le Cameroun, hier sur la République démocratique du Congo, c'est votre manière à vous musclée de ménager ces racines africaines ?
Non, je pense que, enfin, l'expression prendre racine m'a toujours effrayée. J'assimile ça un peu à une espèce de sclérose. Je n'ai pas envie d'être ankylosée, donc je suis plutôt quelqu'un qui est très mouvant, mais qui en même temps avance avec tout ce qu'elle a reçu. Et ce que j'ai reçu, ce sont, enfin, il faut dire ça comme ça, ce sont mes racines aussi. Je fais des films pour ancrer les gens dans la réalité. Qu'ils aient des racines dans la réalité, qu'ils aient des racines dans leur environnement et qu'ils puissent s'impliquer dans ce qui se passe autour d'eux. En même temps, je fais des films aussi qui ont un discours universel. Et je crois que...
Qu'est-ce que vous cherchez en filmant une affaire de nègre, quand vous enquêtez auprès des familles et des victimes, auprès de l'avocat des victimes, auprès des militaires qui ont tué au sein de l'unité spéciale dont on parlait tout à l'heure? Qu'est-ce que vous recherchez? Quel type de vérité vous recherchez?
La vérité sur l'humain. J'ai fait un film sur l'humain. J'ai fait un film sur le commandement opérationnel parce que c'est un sujet que je connais dans un pays que je connais. Mais c'est un film, je crois, qui est universel parce que quand je l'ai montré en Israël, il y a eu un écho. Quand je l'ai montré en France, il y a eu un écho. Donc,
je n'ai pas pu le montrer au Cameroun, en revanche.
Je n'ai pas encore pu le montrer au Cameroun, pas encore. Mais je crois qu'il est important que les Camerounais le voient parce qu'on dit beaucoup de choses sur le film. Mais tant que les gens n'ont pas vu le film, ils ne peuvent pas se faire un jugement personnel. Et c'est important qu'ils puissent en faire un. J'ai fait un film femmes qui évoquent la délation, l'injustice, l'impunité, les dérives sécuritaires. Et je crois que même en France, ce ne sont pas des sujets qui sont étrangers. Donc je fais des films qui nous parlent de l'humain.
Est-ce que c'est aussi un film sur le système politique camerounais, sans que vous stigmatisiez le pays pour autant? Vous rappelez la phrase de Wole Soyinka, prix Nobel de littérature, on dit des Africains qu'ils ne sont pas prêts pour la démocratie, alors je m'interroge, ont-ils jamais été prêts pour la dictature?
Enfin, j'ai pas fait un film pour stigmatiser le Cameroun ou bien pour distribuer des bons points à tel pays ou à tel autre. J'ai fait un film sur une dérive ponctuelle qui aurait pu être arrêtée, voilà, et qui ne l'a pas été. Je pense qu'elle ne l'a pas été, pas seulement du fait du gouvernement camerounais, mais du fait de la population, de la société. Et c'est un film qui questionne plus la société camerounaise aujourd'hui, d'ailleurs, que le gouvernement. Je crois que on n'est pas plus vertueux au nord qu'au sud. La différence, c'est les garde-fous. Et lorsqu'il n'y a pas des garde-fous imposés par la société civile, par les associations, par des gens qui s'engagent, c'est la porte ouverte à tout. Moi, je vois aujourd'hui à travers le monde, le curseur a été mis sur la répression des libertés individuelles. Il y a des lois liberticides qui sont votées même dans les démocraties occidentales, ou considérées comme telles. Donc ce n'est pas simple, le seul fait du Cameroun. Le Cameroun, effectivement, est un pays qui a des difficultés, un pays qui connaît une crise sociétale, où les valeurs sont déliquescentes. Et donc ce film-là a vocation à pointer du doigt à cela. Mais surtout, j'ai fait un film où je montre bien qu'on a quand même plus ou moins le gouvernement, les dirigeants qu'on mérite.
Je pense aussi à un documentaire, juste pour qu'on voit un petit peu l'éventail de votre réflexion, de votre travail, Oswald Lewat. Vous avez fait un documentaire qui s'appelle Un amour pendant la guerre, où vous avez recueilli des témoignages de femmes violées par des miliciens au plus fort de la guerre en RDC, entre 2003 et 2004. Et je pense à cette phrase que j'entends régulièrement ici, dans ce fauteuil, dans Sol majeur, il y en a marre de montrer une Afrique misérabiliste.
Mais je crois qu'il est aussi important de montrer une Afrique qui se prend en charge. Quand on parle d'Afrique misérabiliste, ce sont les images qui sont tournées, qu'on voit sur TF1 ou sur France 2. Il y a combien d'Africains qui racontent leurs propres histoires? Il y a combien d'Africains qui se questionnent, qui s'interrogent, qui remettent en cause le système établi chez eux? Je crois que les choses vont changer, non pas lorsqu'on va se dire « arrêtons d'en parler », mais lorsqu'on va se décider à en parler, nous, Africains, vivant sur le continent ou ailleurs, lorsqu'on va être conscient que notre destin en est comptable, c'est nous qui pouvons le changer, c'est nous qui pouvons le modifier. Je n'ai pas fait un film, je ne fais pas des films pour pointer du doigt, effectivement, pour pointer du doigt l'Afrique. Je fais des films qui montrent des élites qui peuvent s'engager, des élites brillantes, parfois qui ont démissionné, qui ont renoncé. Et je fais des films pour leur dire, c'est à nous de changer l'Afrique.
Il y a comme un petit parfum jamaïcain dans le studio, vous trouvez pas? Bob Marley dans votre programme en sol majeur, est-ce qu'on peut savoir pourquoi?
Bob Marley, parce que c'est l'histoire, c'est le mythe, c'est le reggae. Alors je ne suis pas une fanade de reggae, je suis une fanade de Bob Marley, ce qui est pas pareil. Et puis c'est des musiques qu'écoutaient mes amis quand j'étais beaucoup plus jeune et que j'emporte avec moi pour emporter une parcelle du Cameroun, notamment I Shot the Sheriff, qui est la chanson que je préfère.
Donc Bob Marley, précédé non seulement par la fumée, mais aussi par un extrait de votre doc, Une affaire de nègre, où Maître Moumou, l'avocat des victimes, ne mâche pas ses mots.
Est-ce que les gens peuvent imaginer qu'on a un pays où le policier peut tuer quelqu'un et il ne sera pas fait de jugement? Il n'y aura pas de tribunal. Personne ne peut comprendre ça, je veux dire, en Occident, puisque eux, ils sont dans des pays développés, dans des pays qui pratiquent quand même le droit depuis très très longtemps. Les gens ne peuvent pas comprendre que j'accuse le gouvernement de complicité ou même d'être l'acteur principal, n'est-ce pas, de l'injustice dans ce pays. Les gens ne peuvent pas comprendre ça ailleurs. On va se dire, bon, tant que c'est une affaire de noir, tant que c'est une affaire de nègre, bon, les gens n'en ont rien à faire.
Trying to track me down. Yeah. They say they want to bring.
Bob Marley en sol majeur dans le programme d'une bavarde qui s'appelle Oswald Lewatt, camerounaise et française qui picore à droite et à gauche, tantôt des cuisses de grenouille, tantôt des bâtons de manioc. Et toc, re-question en sol majeur.
Cani, a loro volta non riescono a trovare un corridoio con Maradona. Parte il lancio di Maradona verso Borussia.
Stop. On avait une petite question avant ce petit événement très footballistique et très sportif. On y va.
Il y a un match entre la France et votre pays d'origine. Pour qui êtes-vous?
Hola, mon cœur balance. mon cœur balance, même si je crois que Luc va me tuer, je dirais le Cameroun.
Luc, c'est monsieur, donc.
Luc, c'est mon mari.
Pourquoi
oui,
est-ce qu'il vous tuerait?
Parce qu'il est déjà arrivé qu'il y ait des matchs entre la France et le Cameroun, donc c'est de belles discussions, de belles empoignades verbales. Mais on va dire que je crois que le Cameroun, voilà, c'est une part de moi beaucoup plus tripale. Donc voilà, ce serait le Cameroun, définitivement.
Et vous avez d'ailleurs demandé alors donc une archive particulière. J'espère, Oswald, que vous parlez l'italien.
Oh.
Cani, a loro volta non riescono a trovare un corridoio con Maradona. Parte il lancio di Maradona verso Burucciaga, esce in cono e riesce con il piede a deviare. Certo è che quando la prende Maradona sono guai per il Cameroun. Obambi.
Disastro per Pompidou and the Giuseppe Meazza Stadium is an unbelievable sight. Off the pitch as well as on. One brother is sent off, the other brother scores. Amazing.
Il y a un but, apparemment. Est-ce que vous nous resituez cette Coupe du Monde 1990, Oswald Lewatt?
Ah oui, c'était un grand moment de l'histoire, alors un grand moment très positif de l'histoire du Cameroun. C'était en 90, à la Coupe du Monde, et le Cameroun...
Les lions indomptables
du Cameroun jouaient le match d'ouverture contre l'Argentine, et évidemment, c'était l'Argentine de Maradona, donc... Et on était forcément donné perdant. Et le Cameroun a gagné un but à zéro.
Marqué par qui?
Oh là là, je crois que mes connaissances footballistiques se limitent là. Mais bon, je me souviens surtout...
Allez, on rend hommage à François Omam Biyik.
Ah bon, merci. Mais je me souviens de la ferveur, de la fièvre, de la liesse qu'il y avait au Cameroun à cette période-là. J'y vivais encore. Et ce qui me plaît dans cet extrait ou dans ce match-là, quand je le revois, c'est un peu ce combat de David contre Goliath. J'adore les victoires improbables. J'adore quand on déjoue les pronostics. Et ça, ce jour-là, le Cameroun l'a fait.
Oui, c'est pour redire que le déterminisme, d'aucune sorte qu'il soit historique, par exemple, c'est pas votre tasse de thé.
Hein. Non, moi, je lutte contre les excuses de déterministes. Je pense qu'on peut se faire, qu'on n'a pas tous les mêmes chances, on n'a pas tous le même destin, mais que quand même, on peut influer sur notre vie. Et je crois beaucoup à la force de la volonté. Donc, cette victoire du Cameroun, je crois que c'était... Voilà.
Vous vous souvenez quand même, juste pour faire une petite parenthèse comme ça un peu piquante, qu'il y avait une polémique autour de l'attaquant, un certain Roger Milla, 38 ans à l'époque. L'entraîneur n'en voulait pas. Il a été imposé par qui? Par Paul Biya, le président du Cameroun. Ça mérite pas un petit doc, ça?
Oh, ça, il faut le vérifier. Mais surtout, il a fait un parcours exceptionnel, Roger Milla. Donc, si c'est Paul Biya qui l'avait imposé, pour le coup, il avait raison, alors.
Quelle est votre ville de cœur?
Quelle est votre ville de cœur? Oui, c'est à la manière de Rona Hartner.
Alors, quelle est ma ville de cœur? Est-ce que je peux dire mes villes de cœur ou ma ville de cœur? Ma ville de cœur, c'est Yaoundé. Pendant longtemps, ça n'a été que Yaoundé, un peu New York et puis maintenant Paris. Voilà, j'ai du mal à me déterminer. Mais c'est vrai que lorsque je reviens à Paris, je me sens chez moi et quand je rentre au Cameroun aussi. Mais la ville où j'ai mes souvenirs d'enfance, dont je connais quasiment toutes les ruelles, les rumeurs, les senteurs, les bruits, c'est Yaoundé.
Puisque vous êtes une femme de l'image, est-ce que vous avez gardé en tête des scènes visuelles de votre enfance?
Ah oui, Alors il y en a plusieurs. Il y en a une à la rentrée scolaire en septembre, quand il pleuvait des trombes d'eau, quand on allait à l'école et qu'on marchait dans la boue, et il fallait relever les jambes relever les pieds de nos pantalons jusqu'au niveau des genoux, et parfois on s'enfonçait très profondément dans la boue, dans la terre qui est très très rouge, parce qu'au Cameroun la terre est très très rouge. Quand j'y suis retournée il y a quelques temps, je réalisais encore à quel point c'était une texture assez particulière. Il y a cette image là, et puis il y a l'image aussi des voitures après la pluie, quand il a beaucoup plu, ces voitures qui surnagent.
Bon, mais la dernière question, votre sol majeur, à vous l'amoureuse de Mozart, c'est quoi définitivement ?
C'est la France.
C'est la France. Quand vous arrivez à l'aéroport Charles de Gaulle, c'est le même pincement qu'à l'aéroport de
Nsimalen.
Merci.
C'est un pincement qui est différent. Au Cameroun, il y a beaucoup de souvenirs, il y a parfois un peu de nostalgie, un sentiment de quelque chose de perdu que je veux retrouver quand je reviens au Cameroun. Mais quand j'arrive en France, j'ai le sentiment de rentrer à la maison, voilà. Et c'est pas, comment dire ça, c'est assez particulier d'ailleurs, parce que finalement j'ai vécu moins en France qu'au Cameroun, mais je crois que la France, qui est un pays où je vis aujourd'hui, est une espèce de port d'attache pour moi. C'est de Paris, je peux partir partout dans le monde, et quand je reviens, j'ai l'impression que voilà. C'est parler de racines tout à l'heure. C'est comme si la maison que j'habite aujourd'hui en France est ma racine.
En sol majeur, @rfi.fr.
Et pour les amoureux de Facebook et du blog, vous savez quoi faire, deuxamours.blogs.rfi.fr. On y dépose presque chaque jour un petit après-coup de l'émission, quelquefois des extraits de l'émission, et puis la photo de l'invité enfant. Ce sera fait pour vous, Oswald Lewat. Je vous remercie. Je rappelle votre documentaire, Une affaire de nègre, sorti hier en salle, et c'est à voir en ce moment à l'Espace Saint-Michel, donc à Paris.
Oui, j'ai fait un débat hier avec le public après la projection à 20h. Il y a une autre projection vendredi, enfin il y a des projections tous les jours, hein, mais je serai là demain, vendredi à 20h également. Je ferai un débat après la projection. Ensuite, il y a la sortie en province. J'irai également en province.
Ça va être chaud. Surtout au Cameroun, où j'espère que vous pourrez montrer ce film.
Ah oui, ça ce serait
la cerise
sur le gâteau de pouvoir montrer le film au Cameroun.
On se quitte avec une belle figure de la chanson camerounaise, Henri Dikongé, avec C'est la vie.
Oui, c'est la vie, qui est une chanson qu'il a faite à la naissance de son enfant. Et j'en profite pour embrasser mes enfants, Lucie, Hélène et Raphaël, que j'ai laissés aux Comores. Voilà.
Mauvaise mère.
Une essence, un cri, une douleur. Un bruit, un cœur très doux, ami, un cœur qui bat la vie. Je voudrais m'arrêter sur ce bonheur qui m'est donné. Cette force jaillit de sa fragilité, finit pas de m'étonner. Balayer, balayer, balayer. C'est ma détresse où elle est. Tout paraît beau, tout paraît léger, comme si le monde avait changé. C'est la vie, la vie, la vie, oh, la vie. Elle est bien la divine amie, nous des visages et nous sourit. C'est la vie, la vie, la vie, oh.
Caroline Fillette, Marc Delouvrier, Clément Atlan, Yasmine Chouaki, on se retrouve demain autour d'un humoriste, journaliste, chanteur made in Algeria, Chir Sidi Bémol, aujourd'hui installé en France. Bonne journée sur RFI.